France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Dans une heure, vous avez une réunion de travail. Inutile de vous changer, vous allez chausser votre masque de réalité virtuelle, télécharger en tout cas en l'état une application qui s'appelle Workroom, c'est Facebook qui fait ça, et hop, vous allez vous retrouver depuis votre salon dans une salle de réunion virtuelle. Vous serez installé autour d'une grande table, enfin c'est votre avatar qui sera assis autour de la table, et tous les avatars membres de cette réunion seront donc autour de cette table aussi. Vous pourrez discuter, vous pourrez vous envoyer même des documents. C'est ça le métavers, c'est un autre univers. Un univers en 3D dans lequel vous pouvez, grâce à votre avatar, donc votre autre vous-même numérique, vivre une partie de votre vie. Là, basiquement, on parle de réunion, mais à terme, ça veut dire déambuler dans un magasin, ça veut dire acheter des choses. À terme, c'est une maison qui est celle de votre avatar et donc aussi un peu la vôtre. C'est un concert auquel vous pouvez assister depuis votre salon, mais en immersion. Bref, un vrai monde virtuel parallèle. On nous dit que c'est ça, l'Internet du futur. Et vous comme moi, on se demande si on est dans une aventure incroyable ou dans une terrifiante dystopie. Si nous serons comme des zombies chez nous avec nos casques sur la tête à vivre une vie plus riche, plus belle, plus colorée que la nôtre en nous faisant croire que c'est la nôtre, ou si ces univers nous ouvriront le cœur et l'esprit. Si les rencontres ne seront plus que virtuelles dans cet univers parallèle, ou si au contraire nous toucherons des gens avec lesquels nous n'aurions jamais interagi dans un univers normal. Si on dépensera notre argent pour acheter des habits virtuels ou des outils virtuels pour faire du jardinage virtuel, ou si on va bien rigoler finalement là-dedans. En tout cas, le téléphone sonne est bien réel, vos appels aussi, nos invités sont tous en plateau, figurez-vous. Tout ce que vous ne comprenez pas sur le métaverse, tout ce qui vous fascine, qui vous donne envie ou qui vous fait peur, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne, 01 45 24 7000.
Le premier c'est vous, Gérard, bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir France Inter. Oui, donc j'ai entendu parler de ce métavers au cours d'un café philo et j'avoue que j'étais absolument terrifié. Alors je vais vous dire moi ce que j'ai compris. C'est certain que ce métavers, il aura quelques utilités, mais il aura surtout, je dirais, beaucoup d'inutilités et beaucoup, même créer beaucoup de problèmes. En fait, il va servir à enrichir les GAFA, ça c'est clair. Mmh. Et alors pour prendre un exemple très simple, si vous voulez, il joue sur le fait que, comme les réseaux sociaux, ça permet à certains de se projeter et de montrer, de surdimensionner leur ego. Si je prends l'exemple suivant, si vous promenez dans votre quartier au volant d'une Rolls-Royce, hein, vous allez être admiré par une centaine de personnes.
Ah ben, quitte à avoir une voiture virtuelle, autant avoir une Rolls qu'une vieille 4L, je suis d'accord avec vous là-dessus.
Non, mais par contre, si votre avatar se promène avec une Rolls-Royce sur le métavers, il va être vu par des milliers, des millions de gens. Donc ça va vous donner une estime, ça va avoir une certaine estime de vous. C'est ça le problème.
Et vous allez préférer votre vie dans le métavers, c'est ça que vous dites en fait.
Oui, avec le fait aussi que l'achat de cette Rolls-Royce sur le métavers coûtera beaucoup plus cher que l'achat de la Rolls-Royce en réalité. On le voit déjà avec les vêtements. Les vêtements achetés sur le métavers coûtent plus cher que le même vêtement acheté en réel. Alors, donc on marche sur la tête. Moi je dis, il y a un spécialiste qui a dit que pour une fois, on avait de l'avance, qu'on pouvait anticiper ça, mais il faut vraiment freiner ce truc-là au maximum. Ça c'est mon avis à moi, si j'ai bien compris.
Eh ben, on va voir à la fois si vous avez bien compris et surtout s'il faut freiner ça au maximum, comme vous dites Gérard. Merci beaucoup pour votre appel et pour cette jolie entrée en matière pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Autour de cette table, il y a Chloé Voitier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies. Vous travaillez pour le Figaro Echo. Bonsoir Jérôme Colombin.
Bonsoir Fabienne Saintès.
Vous êtes producteur du podcast Monde Numérique. On vous connaît par cœur évidemment à Radio France. Vous n'avez pas oublié la route jusqu'ici.
Non, j'ai trouvé facilement.
Jérôme, merci beaucoup. Bravo. Michael Travia est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les avatars.
Voilà. Vous êtes directeur de l'innovation du groupe Orange. Alors quand même, il y a des craintes et il y a aussi du vrai dans ce que nous raconte notre ami Gérard là-dessus, Jérôme. Ce qui est vrai, là où il a raison, c'est que on peut effectivement s'inventer un univers parallèle et comme on le disait en plaisantant, mais c'est vrai, quitte à être dans un univers parallèle, autant rouler en Rolls que dans une vieille voiture pourrie. Ça c'est vrai. Ça c'est une réalité. Ça veut dire que la vie, notre autre vie parallèle,
pourrait être meilleur que notre vie.
Est une vie inventée qu'on peut finir par préférer à notre vie réelle, en fait.
Oui, alors c'est vrai que ça peut poser même des questions philosophiques, hein, mais ça, est-ce qu'on a c'est pas un phénomène qui a déjà un petit peu commencé par certains côtés. Après, je pense que le métavers, effectivement, il y a de véritables raisons de s'inquiéter, mais il y en a presque autant que de raisons de s'enthousiasmer, en fait. Ça pose plein de problèmes, mais ça va aussi nous faire basculer dans une dimension qu'on ne soupçonne pas. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on est comme on était par rapport il y a 10 ou 15 ans par rapport à Internet.
Ça
on
va
sait
nous faire
pas
basculer.
Ce qu'on va avoir.
Jérôme, ça veut dire que de toute façon, on peut toujours freiner des cas de fer comme notre ami auditeur. De toute façon, on y va. C'est ça que vous dites, en fait, quoi qu'il arrive.
Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'il y en a qui y vont. Il y a des acteurs qui y vont. Et si on ramène ça à des choses très terre-à-terre, très industrielles et économiques, il y a une question qui peut se poser. Si, par exemple, la France ou l'Europe freinent des cas de fer, est-ce qu'elles ne risquent pas de prendre un retard technologique sur la technologie de demain ?
Est-ce qu'on peut freiner des cas de fer, nous ? Par exemple, on ne peut pas freiner des cas de fer sur Internet, Chloé Wauthier. Enfin, il n'y a que les dictatures qui freinent des cas de fer sur Internet. Donc, à partir du moment où ça existe, où c'est lancé, de toute façon, c'est mondial et c'est pour tout le monde, quoi qu'il arrive.
Oui, c'est mondial et c'est pour tout le monde. Il y a déjà une compétition qui se met en place en Chine, je pense en Corée du Sud également, où il y a carrément des programmes publics. La ville de Séoul, par exemple, a investi énormément d'argent pour créer une sorte de métavers de la ville, de cette capitale, pour que les gens puissent à terme accéder à tous les services publics.
Donc une autre ville, en fait.
Une autre ville,
voilà. Un autre Séoul, en fait.
Voilà,
un autre Séoul virtuel.
Mmh. Okay. Voilà, aussi bien pour le tourisme que pour les services publics. Aux États-Unis, on a évidemment, on pense à Facebook, on pense évidemment aussi à Microsoft, on pense aussi à d'autres acteurs qui se réclament des temps du métavers. Donc je pense par exemple à Epic Games, donc qui est le créateur du jeu Fortnite. En Europe aussi, je pense qu'on prendra le train en marche. On a déjà des acteurs du métavers plutôt professionnels. Je pense par exemple à Dassault Systèmes. Mais ça, c'est pas le côté le plus grand public du métavers, c'est vraiment des applications industrielles.
Mais alors justement pour le grand public, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Et surtout, là par exemple, on voit bien que c'est Facebook qui est en avance par rapport aux autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'un autre s'y met ? Là pour le coup, je reviens à notre auditeur qui dit que c'est ça sert qu'à enrichir les GAFA, en fait. Donc est-ce que demain, Google s'y met aussi ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut naviguer partout, ou est-ce que ça veut dire qu'exactement comme nos prises de téléphone, tiens, monsieur Orange, ben il y en aura un pour tel téléphone et un autre pour un autre téléphone, donc faudra choisir dans quel métaverse on décide d'évoluer. Est-ce que c'est comme ça que ça, est-ce que c'est ce chemin-là qu'on est en train de prendre, Michael Trabia?
Le métaverse, c'est un monde virtuel, hein. Donc un monde virtuel, ça veut dire que c'est comme un monde. On va retrouver effectivement sa personne avec ses avatars, on va pouvoir acheter des objets, des services, on va pouvoir les vivre finalement dans la durée sans fin. C'est aussi ça, c'est un persistant, ce qu'on appelle un monde virtuel persistant, c'est-à-dire que ça s'arrête jamais. Et donc effectivement, ça peut être soit une méta-opportunité, soit des méta-risques, et probablement un peu des deux, avec des cas d'usage qui vont être très intéressants, pas que dans le jeu, parce qu'effectivement aujourd'hui, tous ceux qui nous écoutent et qui ont des ados ont probablement leurs ados qui sont déjà un peu dans le métavers, avec Fortnite, Roblox, mais aussi des questions de confiance qui se posent.
Et avant de revenir au standard, Jérôme, moi dans le jeu, je comprends en fait ce que ça veut dire, et c'est même totalement fascinant de se dire qu'on est vraiment dans le jeu, donc en vraie immersion complète. Mais aller dans un magasin virtuel, par exemple, pour acheter des trucs virtuels, pardon, ça me monte pas au cerveau, je comprends pas à quoi ça sert.
Mais vous savez,
de dépenser de l'argent pour, je disais en plaisantant tout à l'heure, mais c'est ça, pour acheter des outils pour virtuels, pour jardiner dans un jardin virtuel. Enfin, c'est quand même.
Il y a l'aspect j'achète, et ça, Chloé Wauthier pourra en parler, mais cette interrogation-là, c'est un peu celle qu'on pouvait avoir, encore une fois, il y a 15 ans par rapport au e-commerce. Aller sur un magasin virtuel, en fait, ce sont des menus, des petites images.
Oui, mais j'avais mon outil pour mon vrai jardin, alors que
c'est sur
un faux outil pour un faux jardin. Voilà. Et donc, quel est l'intérêt de jouer à ça, en fait?
C'est le business model aujourd'hui. Mais... Aujourd'hui, quand vous regardez le business model
Merci
des
Jérôme.
Jeux.
Pardon, allez-y.
Quand vous regardez le business model des jeux vidéo et des jeux en ligne, on est sur du freemium, c'est-à-dire que les joueurs achètent des objets, achètent que ce soit pour des vêtements, que ce soit des objets pour jouer. Et ça a de la valeur, ça c'est de l'économie derrière.
Je comprends ça, Michael Trabia. Et ce que je comprends, par exemple, on est dans un jeu, donc on achète avec de l'argent un gilet pare-balles, par exemple, parce qu'on a gagné tant de points, etc. On achète une arme, parce qu'en général c'est ça qu'on fait dans les jeux vidéo, qui nous rend plus performants. Mais encore une fois, à quoi ça sert si mon avatar rentre dans un magasin, parce qu'il paraît que tous les magasins aujourd'hui sont en train de créer, d'imaginer leur univers métaverse. Ça me sert à quoi si mon avatar a les dernières tennis à la mode, enfin, et qu'il a payé super cher et qui ne seront portés que par mon avatar sur un écran? Ça sert à quoi, en fait? Ça nous dit quoi de notre avenir et de la société?
Bah, c'est vrai qu'on peut se dire à quoi bon acheter des vêtements virtuels qui n'ont voilà qui n'ont aucune représentation dans la vraie vie.
Merci, oui.
Et c'est vrai, c'est une question qui se pose. Mais le jeu vidéo, en fait, a prouvé que c'est une question qui ne se posait plus, parce qu'on parlait de Fortnite. Dans Fortnite, vous pouvez acheter avec du vrai argent des tenues virtuelles qui ne vous donnent absolument aucun bonus.
Okay.
Rien du tout.
C'est juste
du cosmétique.
Que vous êtes plus beau,
du cosmétique.
Fait.
Par exemple, vous pouvez acheter des vestes Balenciaga.
Okay.
Au sein de Fortnite. C'est pas une vraie veste Balenciaga de la vraie vie, ça coûte beaucoup moins cher, ça coûte l'équivalent de 10 euros. Mais vous pouvez vous afficher dans ce monde virtuel avec ce vêtement de luxe. Et sachant voilà, que ceci a été prouvé, les artisans du métavers se disent eh ben, ça, on peut l'étendre à une plus large, à une plus large échelle, en se disant les gens vont vouloir avoir leur avatar, qui soit unique, qui leur ressemble ou pas, mais qui pourront personnaliser en achetant des vêtements. Et ça, on verra si ça fonctionne ou pas, mais par exemple, Facebook parie que ce sera un commerce qui vaudra des centaines de milliards de dollars à terme, parce que les gens voudront acheter, comme ils achètent dans la vraie vie des vêtements, ils voudront aussi être beaux et séduisants dans le monde virtuel.
Bonsoir Sophie, pardon Jérôme, bonsoir Sophie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Sophie.
Ah bah alors, juste moi, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, presque un an, voilà, j'avais découvert Second Life.
Ah ouais,
j'avais une trentaine d'années.
Tous, ouais.
Oui, ben voilà. Et effectivement, j'en garde un très très bon souvenir. Je me suis vraiment éclatée dans ce jeu. Alors après, voilà, moi j'avais une vie sociale, j'avais encore pas d'enfant, mais tout allait très bien. Et c'est vrai que moi, je me suis vraiment, vraiment éclatée dans ce jeu. J'avais un corps de rêve. J'ai changé de couleur de cheveux. Bah oui, non, mais forcément.
Bah oui,
J'ai changé de couleur de cheveux toutes les 5 minutes, de coiffure toutes les 5 minutes, je pouvais marcher avec des talons qui faisaient 15 cm avec une démarche sublimissime, mais voilà. et j'en garde un très bon souvenir. J'ai rencontré des amis que j'ai gardés, on s'est rencontrés pour de vrai, et pour le coup, alors moi je n'ai jamais investi vraiment d'argent.
C'est ça, on n'achetait plus, rappelez-moi comment on faisait Sophie, on n'achetait rien sur Second
dansait,
Life.
On dansait.
Ouais, ouais, c'est vrai.
On dansait. Ouais. Mon avatar passait des nuits à danser pour pouvoir. Et après, je faisais des boutiques, mais ça, c'était fabuleux. C'est-à-dire que voilà.
Mais ça nous coûtait rien. Je me souviens plus. On payait sur Second Life ou pas?
Non, ah, c'était gratuit. Moi, j'ai jamais rien déboursé.
Mais du coup, est-ce que vous imaginez Second Life à la puissance 10? Parce qu'on va dire ça, c'est Second Life à la puissance 10, le métaverse aujourd'hui. Est-ce que vous vous imaginez acheter une veste de chez Balenciaga, comme disait Chloé à l'instant, pour que votre avatar la porte?
Non. Alors non, pour le coup non, mais par contre je pense que ça m'a quand même aidé beaucoup, parce qu'aujourd'hui je suis maman d'un préado qui a 13 ans et qui a découvert donc Fortnite et qui a demandé à Noël dernier donc des cartes, les fameuses cartes là prépayées pour pouvoir donc acheter des pièces, enfin avoir des pièces, de l'argent dans Fortnite. C'est-à-dire que voilà, il a demandé une carte cadeau virtuelle. C'est-à-dire donc du coup voilà, moi j'ai accepté parce que je me suis dit, je connaissais ce monde virtuel. Bon, je me suis dit, voilà, je pense qu'il était très content que j'accepte. Bon, je cadre tout ça, hein, bien sûr, mais effectivement, le fait d'avoir connu Second Life, ça m'a peut-être permis d'accepter et de comprendre un petit peu cette envie qu'il avait d'acheter ses danses, ces fameuses danses là, sur Fortnite.
Merci, merci beaucoup, Sophie.
Voilà.
Est-ce que c'est, Michael Travia, est-ce que c'est Second Life puissance 10, on dit ça, le métaverse? Et la raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que Second Life est mort de sa belle mort. En fait, on s'est très vite lassé. Et puis, on est passé à autre chose. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a rien eu vraiment entre Second Life et le métaverse qui soit vraiment une expérience immersive, progressive, on va dire. Donc, c'est mort de sa belle mort, cette histoire, en fait.
Oui, alors c'est vrai que c'est le métaverse, ça fait très Second Life et ça fait très retour de Second Life avec, entre-temps, quand même, un développement d'un certain nombre d'outils et de technologies. Ouais. D'abord, des réseaux avec une connectivité très haut débit, avec de la fibre, de la 5G, qui permet aujourd'hui d'envoyer des images en 3D. Ensuite, c'est des objets en réalité virtuelle, en réalité augmentée, des lunettes qui vont nous permettre d'être vraiment en immersion. Et ça, c'est quand même des éléments nouveaux. Et c'est vrai que il y a deux modèles économiques dans le numérique, c'est important de bien les comprendre. Soit on achète un service, on le paye, voilà, on va acheter sa tenue, on va acheter son abonnement télécom. Soit, en fait, c'est la publicité, c'est-à-dire que c'est nos données qui vont être utilisées par un certain nombre d'acteurs qui vont être vendus pour nous faire de la publicité. Et soit on est dans l'un, soit on est dans l'autre, mais si on paye pas, c'est qu'on est le produit.
Ouais. Alors nos données, c'est bien ça qui commence à faire peur, Jérôme. Nos données, nos conversations, où est-ce que ça va tout ça, en fait? Est-ce qu'à un moment, est-ce qu'on peut avoir une conversation extrêmement confidentielle, vous et moi, par exemple, sur le métaverse? Est-ce que c'est dangereux?
Alors, c'est vrai que ça fait penser, évidemment, à un certain acteur qui s'appelle Facebook, qui s'est fait remarquer par des scandales liés à l'exploitation abusive des données, et qui, très clairement, a l'intention de reproduire ce modèle économique dans le métavers. Ce sera sans doute puissance 10, puisque il ne se contentera plus de capter quelques-unes de nos données, savoir les pages sur lesquelles on va, etc. Mais ce seront des données quasiment comportementales, à quelle heure je viens, comment je me comporte vis-à-vis des autres, etc., etc. Donc ça peut faire peur. Après, ils ont peut-être, enfin déjà il n'y aura pas que Facebook, et puis peut-être ont-ils appris la leçon. Mark Zuckerberg a annoncé qu'il allait investir 10 milliards de dollars, je crois, dans les réflexions sur les questions éthiques. Aujourd'hui, le système Oculus Facebook... non, alors, le système Oculus de Facebook, qui est le masque de réalité virtuelle, n'oblige pas, par exemple, à utiliser son compte Facebook. Pour certaines activités, oui, mais pour par exemple, pour l'aspect professionnel, non. Donc, mais effectivement, c'est vraiment une vigilance qu'il faut avoir par rapport à l'exploitation de nos données qui seront puissance 10. Là.
Et qui joue le modérateur, en fait, là-dedans?
Et ça, c'est l'un des problèmes qui vont se poser, enfin, parce qu'on imagine tous que ça va être les réseaux sociaux puissance 10.
C'est ça.
Et là, alors moi j'étais hier soir, je me suis mis dans l'ambiance, je suis allé faire un petit tour dans le métavers, je suis allé sur Horizon Venues, qui est une déclinaison du système de Facebook pour des spectacles, et j'ai trouvé des gens, qui parlaient pas français, donc j'ai pas trop interagi avec eux, etc. Mais on sent qu'il peut y avoir très vite de la tension, de l'agressivité, alors il y a un système qui va être mis en place, qui est un système de sécurité autour de soi, pour éviter de recevoir des coups virtuels, mais il y a déjà eu par exemple...
C'est dingue, non mais sérieusement, vous me terrorisez.
Mais il y a déjà eu des précédents d'agressions sexuelles virtuelles dans le métavers, et qui sont, même si c'est virtuel, extrêmement désagréables pour les victimes.
Ah ben, vous m'étonnez, oui, et dont on va donc imaginer un moment si une agression sur le métaverse doit aussi être traitée par la justice, qui elle n'est pas virtuelle et qui est réellement virtuelle. Est-ce qu'on pense déjà à tout ça, Chloé Voitier? Est-ce qu'on en est à ce stade-là de réflexion, en fait?
Ben, on en est à ce stade-là, effectivement, parce que Facebook, quand ils ont fait leur premier test donc sur leur monde virtuel, bah, c'était quelque chose auquel ils n'avaient pas forcément pensé. Et il y a une des premières utilisatrices, en fait, qui s'est plainte parce qu'elle s'est fait agresser par une personne, en fait, une personne qui s'est approchée d'elle et qui, grosso modo, s'est frottée à elle, s'est frottée à son avatar. Et donc, à partir de là, Facebook a dit « Ok, il faut qu'on mette en place des systèmes de sécurité, de créer une sorte de bulle pour pouvoir s'isoler. » Et je crois que maintenant, les avatars ne peuvent pas s'approcher à moins d'un mètre de son propre avatar pour éviter ce genre d'interaction. Mais on voit déjà, rien que sur cette petite chose, en fait, ce fait divers, qu'on va rentrer sur des considérations immenses sur la question de la modération. De la modération, de faire en sorte que les choses se passent bien sur le métavers, sachant qu'aujourd'hui, sur Internet, ça ne se passe quand même globalement pas très bien.
Non, comme vous dites, c'est de pire en pire. Donc du coup, quand on arrive à ce stade-là, on peut aussi inventer, effectivement, là, pour le coup, c'est Jérôme qui a raison, on peut se mettre à se taper dessus dans le métaverse. Oui. Qu'est-ce qui dit qu'on ne se rencontre pas du coup dans la vraie vie derrière et qu'on ne se tue pas vraiment? Alors, cela dit, si c'est quelqu'un qui est au Nicaragua, c'est plus difficile. Mais bon, c'est pas une raison, si je puis dire. Voici une question de Gilbert qui vient de Blois. Elle est pour vous, Michael Trabia, je pense. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, en plus de l'aspect des jeux du cirque qui permettaient aux Romains de tenir leur hégémonie, risque de se passer pendant que les gens passeront à leur jeu, ils passeront pas aux réalités sociales et économiques, il y a une question qui me turlupine, c'est la consommation d'électricité que ça va engager. On se pose déjà les questions avec la 5G qui va servir à stocker des données de façon gigantesque, la crypto-monnaie, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une démultiplication énorme de la consommation électrique à un moment où la pollution donc de l'énergie va se poser de plus en plus. Et en plus, on met donc les stockages, les lieux de stockage, on les met en Islande, dans des pays froids, parce qu'on a besoin de refroidir ces engins-là, en plus de l'électricité, pour faire circuler l'information.
Merci.
Et là, je crois qu'on est en train de courir à la catastrophe.
Merci beaucoup Gilbert. On va écouter Claire qui est à peu près sur le même thème. Bonsoir Claire.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de prendre ma question. En fait, moi je m'interrogeais sur l'empreinte écologique du métal. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Alors, on en parle pour les crypto-monnaies, les bitcoins et tout ça, mais j'aimerais bien savoir si on sait un peu, voilà, c'est ça, qu'est-ce que c'est l'empreinte écologique, puisque toutes ces toutes ces actions dont on parle, j'imagine que ça va pour beaucoup de données, de stockage et aussi de puissance électrique et de sur les serveurs pour les traiter et pour maintenir un peu dans la durée tout ce métavers. Et du coup, ça me pose quand même vachement question à un moment où on parle quand même beaucoup d'un numérique qui devrait être à la fois de l'empreinte, mais non seulement énergétique, mais aussi en termes de coûts dans les pays d'où sont extraits les métaux rares, pour lesquels on a besoin d'infrastructures numériques.
Regardez, on discute même des fonds des mers en ce moment, justement, précisément pour ces métaux rares. Donc, c'est une vraie, vraie bonne question que celle de Claire et celle de Gilbert aussi. Qu'est-ce qu'on sait de ce que ça, de cette empreinte-là, Michael Trabia, de l'électricité que ça va demander?
Ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie question, parce que le numérique doit être un numérique responsable, un numérique à impact positif, et le métavers interpelle sur ces questions-là. Alors, c'est quoi les principaux sujets? On a les réseaux sont déjà là, et donc ils vont pas consommer plus, parce qu'on va passer du métavers par-dessus. On a les équipements, donc c'est vrai que si on va acheter des nouveaux équipements, des nouveaux casques de réalité virtuelle, et qu'on va faire du multi-équipement et du suréquipement, on sait que la fabrication de ces équipements est très consommatrice.
Et la consommation, en plus, on paye en bitcoin pour l'instant, en tout cas en crypto-monnaie à l'intérieur du métaverse, et on sait ce que ça veut dire avec effectivement les énormes usines qui, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, comment on appelle ça?
Les usines de minage.
Ouais,
et c'est vrai que sur le sujet de la crypto-monnaie, il y a une vraie question environnementale, parce que, alors il y a plusieurs types de blockchain, mais je vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, quand on regarde le bitcoin, qui est la principale crypto-monnaie, elle est extrêmement consommatrice d'énergie et de manière déraisonnable. C'est-à-dire que si on devait tous payer en bitcoin, on n'aurait pas assez d'électricité pour susciter le système. Donc il faut réfléchir à des nouveaux, à des nouvelles innovations technologiques. C'est ça qui est intéressant.
Mais on va la calculer, l'empreinte écologique.
On va calculer l'empreinte carbone de tout. Je crois que dans le monde entier, dans tous les acteurs industriels, dans tous les acteurs économiques, calculent leur empreinte carbone. Évidemment, on va la calculer dans le métavers, et il faudra qu'elle soit raisonnable. Et sinon, elle ne sera pas. Il n'y aura pas de métavers qui ne soit pas écologiquement, d'un point de vue environnemental responsable. Ça n'existera pas.
Pour vous, par exemple, Orange, pourquoi ça vous intéresse, le métaverse, par exemple? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez nous emmener dans le métaverse?
Nous, on est un peu le point d'entrée du numérique. Sans réseau, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, et il n'y aura pas plus de métavers. Et donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de permettre à nos clients d'accéder à tous ces usages numériques. Donc, c'est les réseaux, mais c'est aussi, nous, on est un acteur de confiance. Et par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tous ces risques, est-ce que en face de moi j'ai la bonne personne? Est-ce que l'achat que je vais faire de la robe Balenciaga, c'est pas une fraude? Ben, nous, on est cet acteur qui va pouvoir aussi sécuriser les paiements, garantir l'absence de fraude. Et en fait, on va retrouver dans le métaverse tout ce qu'on a dans le monde réel aujourd'hui, tout ce qu'on a dans l'internet aujourd'hui. Et donc, un opérateur comme Orange sera le point d'entrée du métaverse.
À qui ça s'adresse, nous demande Clément, sur franceinter.fr? Est-ce que tout le monde, ou c'est juste une communauté de geeks? Alors, pour l'instant, Jérôme, c'est vous.
Oui, pour l'instant, c'est les gamers, surtout, ouais. pour le jeu. C'est aussi pour le spectacle. Il y a quand même ce concert de Travis Scott, c'est ça, l'année dernière, qui a rassemblé 12 millions de personnes dans le métavers. Donc, il y a l'industrie du spectacle qui est à fond là-dessus. Là, j'ai appris aujourd'hui que Arte allait faire prochainement un concert dans le métavers. Ouais. Et puis, il y a le monde professionnel. Et il y a notamment, alors il y a un aspect, je vais encore citer Facebook, parce que c'est eux qui sont en avance. Ils ont lancé, dès la fin de l'été dernier, une plateforme qui s'appelle Workrooms, qui est une salle de réunion virtuelle.
C'est là que je vous ai vu dans un des podcasts, effectivement. Ouais.
Voilà,
alors, ça bougeait un peu, ça m'a donné un peu le mal de mer. Mais...
Oui, on refera une version plus stable, je vous promets, Fabienne. Mais c'est très agréable pour travailler, c'est 100 fois plus agréable qu'une séance de visio sur un ordinateur.
Combien ça coûte un casque de réalité virtuelle pour l'instant? Est-ce que ça veut dire que là aussi ce sera... alors je dis ça, mais nos téléphones nous coûtent extrêmement cher et tout le monde en a un dans la poche en fait. Mais ça coûte combien pour l'instant?
Actuellement, alors de mémoire, les casques de Facebook coûtent autour de 300 à 400 euros. Sachant voilà, qu'ils sont... en fait, Facebook les vend à perte parce que c'est des technologies vraiment très 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 coûteuses. Mais là où Facebook va, c'est plutôt vers les lunettes de réalité augmentée. Leur vision à très long terme, c'est de se dire, on aura des paires de lunettes, comme des lunettes de vue, donc aussi fines, aussi pratiques, qu'on mettra sur le bout de notre nez. Et à partir de là, en fait, on pourra voir Un autre monde, une surimpression du monde actuel, un peu comme par exemple quand on joue à Pokémon Go avec notre notre smartphone, okay. Ce sera directement sur
nos yeux. On voit apparaître les Pokémon, enfin on voyait d'ailleurs parce que ça aussi c'est passé de mode assez vite, mais on les voyait apparaître effectivement.
Mais c'était une technologie qu'ils veulent reprendre en se disant on va la pousser beaucoup plus loin. Et par exemple, imaginons que je veux discuter par exemple avec Jérôme, on n'est pas dans la même pièce, et je pourrais mettre mes lunettes de réalité augmentée et le voir apparaître devant moi. Et on pourrait interagir comme si on était de face à face, projeter des documents, discuter, alors qu'en fait, il se trouve peut-être à 5000 km de là où je me trouve.
Et est-ce que c'est là, du coup, que je verrai arriver aussi dans ces lunettes-là, subitement, la publicité pour des choses dont nous savons très bien qu'elles m'intéressent parce que je me suis promenée dans tel et tel endroit?
Ah, ça, c'est fort possible. En tout cas, c'est le modèle économique de Facebook. Et on a déjà vu passer des premiers brevets. Alors, qui dit brevet ne dit pas forcément que ça va se faire. Mais il se dirait pourquoi est-ce qu'on n'observerait pas les réactions du visage des gens lorsqu'ils sont. Face à une publicité.
Donc les émotions, en fait.
Les émotions, en fait. Lire les émotions pour dire « Ah, ça, ça a l'air de les intéresser. Ah, ça, par contre, ça les effraie. Ça les intrigue. »
Et ça, c'est la question d'Ariane. Bonsoir, Ariane.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci beaucoup de prendre mon appel. Effectivement, vous devancez un peu mon propos. Je voulais vous appeler exactement à ce sujet. La porte d'entrée du métaverse, en tout cas la vision de Meta, c'est les Oculus, qui sont ces casques de réalité virtuelle. Et effectivement, ces casques ont la propriété de traquer beaucoup plus que du trafic ou que des pages où on va sur le web. Mmh. Elle traque les mouvements de nos yeux, elle traque même les mouvements de notre corps, en fait, puisqu'on a aussi des petites manettes. Et ça permet à Facebook de récolter beaucoup, beaucoup de données émotionnelles qui leur permettent de comprendre vraiment nos triggers assez profonds. Et je voulais avoir un peu la réaction de vos invités sur des potentielles régulations ou même l'acceptance des gens pour ce genre de... Le tracking qui est quand même très intrusif.
Comment on fait ? Est-ce qu'on a moyen de bloquer ça un peu comme il y a des stop pubs ? Donc il n'y a pas de pub, il y aurait stop émotion, donc on n'est pas censé capter nos émotions. Ou est-ce que la technologie n'est pas déjà trop forte pour nous, en fait, Jérôme ?
Déjà, la technologie capte déjà nos émotions. Il y a des grands opérateurs qui ont dans leur centre d'appel des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables de détecter si la personne qui appelle est énervée ou satisfaite, etc.
Vous savez faire ça, vous, chez Orange ? Vous savez capter si on est très énervé ?
Avec l'intelligence artificielle, ça se fait très bien.
Okay.
Donc ça, c'est la première brique. Après, moi, je dirais il faut être un peu positif et j'aurais tendance à penser que le pire, on l'a déjà vécu, en fait, avec les réseaux sociaux.
Le pire est toujours à venir.
Peut-être, mais on peut espérer qu'un certain nombre de leçons ont été apprises et que déjà, dès le départ, on va se préoccuper de la régulation, ce qui n'était pas le cas au début des réseaux sociaux.
Oui, parce qu'on n'a pas imaginé, en fait, jusqu'où ça irait. C'est marrant parce que ça rejoint la question de Mourad qui dit « Peut-on imaginer une version Darknet du métaverse ?» Et en vous écoutant, la réponse est oui, évidemment, non?
Oui, moi, ça me paraît évident que oui, il y aura un dark metaverse dans lequel il se passera des choses absolument horribles.
J'adore comment vous dites
trafics,
ça.
Il y aura
être épouvantable.
Comme sur Internet, en fait. Enfin, pour moi, je vois le métaverse comme une évolution d'Internet, c'est-à-dire qu'il y aura ses côtés très positifs. Voilà, on pourra rencontrer des gens, enfin, comme vous disiez dans votre introduction, ce sera absolument formidable. Des côtés très négatifs, et notamment cet aspect criminel, cet aspect criminalité, mafia, extorsion, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de pire se trouvera aussi dans le métavers.
Ah c'est très rassurant ce que vous nous dites. Est-ce qu'on a réussi par exemple sur les crypto-monnaies, parce qu'à un moment la crainte sur les crypto-monnaies c'était que c'était un système formidable de blanchiment d'argent, est-ce qu'on a réussi à éviter que les crypto-monnaies servent à blanchir de l'argent? Donc est-ce que ça veut dire que donc on pourra de toute façon éviter, comprendre où peut aller potentiellement le métaverse et donc essayer justement de ne pas y aller? Est-ce qu'on a cette possibilité ou encore une fois la technologie est plus forte que nous en fait?
Non, et bien déjà, les crypto-monnaies, elles ont le spectre de la régulation des États qui se rapproche furieusement quand même, hein, dans beaucoup de pays. Et un jour ou l'autre, on va siffler la fin de la récré, ça a déjà commencé.
C'est déjà quasiment
Facebook avait un projet de monnaie virtuelle qui n'a pas pu aboutir. Pourquoi ? Parce que tous les organismes étatiques se sont élevés contre ça. Donc il n'y a pas de solution miracle, mais ça va être au pas à pas en fait.
Mélanie est là. Bonsoir, Mélanie.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Écoutez, bon, moi, j'écoute tout ça et je me pose beaucoup de questions. Et au début du confinement, j'ai vu tous ces êtres désespérés du plus jeune âge jusqu'à un âge plus certain se désespérer d'être enfermés. Finalement, aujourd'hui, ils sortent de moins en moins, ils travaillent chez eux, ils mangent, se font livrer chez eux, vont de moins en moins au cinéma, je le constate, puisque je vais au cinéma, il y a de moins en moins de personnes, au théâtre. n'y a pas que ça. Finalement, tout ça, je me dis, eh ben, on oublie les réalités extérieures, on oubliera même l'environnement, puisqu'on sera chez soi et qu'on aura des décors magnifiques sur le métavers. Et puis, il n'y a pas que ça. Quand on investit, on sait très bien que les gens, quand ils investissent, ils ont du mal à se retirer, hein, contrairement à des jeux où on n'investit pas. Et puis, finalement, au bout du compte, avant, quand on ne payait pas, c'est qu'on était le produit. Mais là, ce que j'entends, c'est même quand on payera, on sera le produit.
Et cette fusion, merci beaucoup Mélanie, évidemment cette crainte on la comprend, et cette fusion du réel et du virtuel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la Rolls-Royce, c'est tellement plus sympa d'être dans un univers où on est très bien gaulé, on a une très belle voiture, on a une résidence avec piscine. Honnêtement, pourquoi est-ce que j'enlèverais mon casque de réalité virtuelle si je peux vivre dans une résidence avec piscine alors que je vis dans un 42 mètres carrés à Ménilmontant? Non mais sérieusement.
Non mais bien sûr qu'il y aura des problèmes d'addiction, et ça c'est le film de Spielberg, Ready Player One.
Exactement, on a une question
tellement,
là-dessus d'ailleurs.
Voilà, ouais. Le monde extérieur est tellement horrible qu'on se réfugie là-dedans.
Exactement.
Mais je pense qu'on disait ça aussi un peu des réseaux sociaux au début. On disait, ah, les jeunes ne sortent plus, etc. Je sais pas, je crois qu'il y a encore beaucoup de jeunes au restaurant, dans les terrasses de café, ils ont un besoin de socialisation, simplement la vie a changé, ça c'est certain. Oui.
La vie a changé, Michael Trabia. On aura toujours une place pour les deux, mais on a l'impression que toutes les entreprises, y compris la vôtre, nous y envoient, en fait. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on aura le choix, à un moment, de dire non? Exactement comment on peut dire non aux réseaux sociaux aujourd'hui? Mais on se rend bien compte que pour un certain nombre de gens, c'est compliqué, en fait, de dire non.
On a toujours le choix, en réalité. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des risques ce soir, et ils sont nombreux, il faut pas les minimiser, les risques d'addiction, les risques de harcèlement. Mais en fait, faut bien voir que le métavers, c'est comme le monde réel. C'est-à-dire que tous ces risques qu'on a dans le monde réel, ils vont exister aussi dans le métavers. Mais le métavers, c'est aussi beaucoup d'opportunités. Moi, je veux juste en dire un mot sur un usage concret qui est tout ce qui est formation, tout ce qui est éducatif. Moi, j'ai testé les HoloLens, qui...
Je sais pas ce que c'est.
Les HoloLens, c'est de la réalité virtuelle, même de la réalité augmentée.
D'accord.
Sur le corps humain. Et donc, par exemple, quand vous voulez apprendre l'anatomie et la biologie, que vous voyez le corps, que vous pouvez enlever l'épiderme pour aller voir exactement où sont les organes, les flux sanguins, etc., ça a une puissance d'apprentissage colossale. C'est vrai aussi dans l'éducation. On peut faire des visites virtuelles pour voir ce qui se passait au temps de l'Antiquité. On a sorti, d'ailleurs, nous, un programme en réalité virtuelle qui est un prélude du métaverse autour de Notre-Dame, qui s'appelle Éternel Notre-Dame, qui permet à tout le monde de voir toute l'historique, comment ça a été construit, de discuter avec les architectes, de visiter Notre-Dame à travers les siècles. Et donc, c'est aussi quand même beaucoup d'opportunités, il ne faut pas les sous-estimer.
Alors effectivement, ça peut être formidable en termes d'apprentissage, il y a des tas d'applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute Mathieu. Bonsoir Mathieu.
Oui, bonsoir, vous m'entendez bien?
Absolument bien, allez-y.
Parfait. Bonsoir à tous, bonsoir à vos invités, puis surtout à Michael Trabia, puisque je travaille aussi dans le groupe Orange.
Ah, bravo.
Voilà, et puis je vais aller dans son sens et dans la continuité, puisque pour avoir travaillé précédemment au Canada dans une association qui utilisait la réalité virtuelle pour aider les personnes en situation de handicap à l'aide d'électrodes et de la réalité augmentée pour leur permettre de retrouver, si vous voulez, leur capacité motrice à travers plusieurs exercices sur plusieurs séances. Et du coup, si vous voulez, le métavers, pour moi, c'est aussi, comme disait M. Trabia, d'énormes opportunités pour aller dans la recherche, dans la médecine, pour soigner des gens et démocratiser tout ça, puisque bien entendu, ce genre de petite expérience dans l'association où j'étais coûtait très cher. Et en démocratisant tout ça, on va pouvoir permettre de donner ce genre de moyens ou d'opportunités à des gens qui en ont besoin et qui ne les ont pas pour le moment.
On a l'impression, donc, voilà. Pardon Mathieu, pardon, vous avez fini Mathieu?
Oui.
Ah pardon, excusez-moi. C'est fou comme on a l'impression effectivement qu'il y a ces deux utilisations-là en fait, mais exactement comme au début d'Internet en effet, quelque chose qui est vraiment tourné vers la connaissance. C'est marrant que vous citiez les musées, parce que je me souviens de la première visite du musée du Louvre, etc., qui a été accessible sur Internet. Donc il y a cet usage-là. Et puis effectivement, il y a l'autre, hein, et ces deux routes-là, seront toujours en parallèle, Chloé Voitier, c'est ce que vous dites.
Oui, il y aura le pire et le meilleur. Et là, c'était très très bien illustré. Il y a d'ailleurs déjà des applications absolument formidables de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, notamment on parlait dans l'aspect professionnel, l'aspect formation. Mais voilà, faut pas non plus aussi oublier ce qui pourrait être négatif. Et là, en fait, je pensais à une Frances Haugen, donc qui était la lanceuse d'alerte de Facebook, qui avait notamment alerté sur les problèmes qu'Instagram pouvait poser sur la santé mentale des adolescents. Et elle disait dans le monde, dans le métavers, si vous passez votre temps dans un monde où votre appartement est plus beau, vos vêtements sont plus beaux, vous êtes plus beau que dans la réalité, quel effet ça va avoir sur la santé mentale des gens? Est-ce qu'ils seront vraiment... Comment est-ce qu'ils vont en sortir de ce monde-là? Et ça, je pense, c'est aussi une réflexion qu'il faut qu'on ait dès à présent, que ce soit au niveau des régulateurs, mais même au niveau des sociologues ou autres, sur qu'est-ce qu'on veut, en fait, comme usage d'Internet et comme usage du métavers dans les 10 à 20 ans à venir.
Absolument, une vraie discussion qui sera effectivement une discussion absolument passionnante. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir à tous.
Beaucoup plus terre à terre votre question, mais allez-y Stéphane.
Merci d'accueillir mon témoignage. Moi j'ai une question aussi aux experts. Moi je suis Stéphane, donc je suis gérant d'une entreprise, entraîneur et dirigeant d'un club de basket, et je pratique le tennis de table en réalité virtuelle tous les jours pendant 30 minutes à 1 heure. Et depuis 2 ans, je développe une communauté qui a plus de 500 joueurs et qui joue tous les jours ensemble à travers des tournois. Les joueurs sont pas des geeks qu'on pourrait imaginer dans le noir dans leur chambre, mais des personnes qui aiment vraiment le sport, qui ont entre 20 et 60 ans. Le jeu est vraiment immersif. Nous sommes dans une salle de sport avec une table en face de nous et un avatar qui représente notre adversaire, et nous prenons un énorme plaisir à rencontrer des copains, transpirer, discuter, faire du sport ensemble. Alors quand j'explique à mes amis notre activité, je dis souvent que nous pouvons jouer grâce à la réalité virtuelle quand on veut, où on veut, avec qui on veut. Et le métavers, c'est aussi ça, c'est la pratique d'une activité sportive et le développement de liens humains entre les personnes, parce que au-delà de l'activité sportive, on crée vraiment des liens humains. Les joueurs de notre communauté se retrouvent parfois dans un gymnase en réel pour partager des moments ensemble. Et donc, je peux vous confirmer que le virtuel mène au réel. C'est du vécu, on le vit de nouveau tous les jours. Et d'ailleurs, nous sommes en train de structurer la pratique avec la création d'une association sportive de 1901, avec un partenariat avec la Fédération française de tennis de table. Et nous allons organiser très prochainement des rassemblements physiques et les joueurs amèneront leur casque de réalité virtuelle et joueront ensemble. Ma question aux experts, c'est: est-ce que vous pensez à terme que ce genre de pratique peut changer l'image qu'a le grand public au sujet des jeux vidéo? Parce que dans cet exemple, nous avons un jeu vidéo qui crée du lien social et qui fait transpirer.
Excusez-moi Stéphane, moi j'aimerais savoir comment vous transpirez en fait quand vous jouez au tennis de table, mais puisque c'est votre avatar qui joue, est-ce que vous courez quand même dans votre salon ou pas?
Ah oui, on court et au bout de 5 minutes,
si
vous voulez, j'amène mon casque un jour et vous rencontrez et vous allez vraiment transpirer en 5-10 minutes, c'est vraiment du vrai sport.
Attendez, championne du Val-de-Marne 1984, tennis de table, alors s'il vous plaît, parlez-moi différemment s'il vous plaît Stéphane, merci beaucoup, merci vraiment pour votre question, en voilà un usage, en tout cas, qui peut changer l'image des jeux vidéo, vous pensez?
Oui, je pense que vraiment, il y a une gamification, en fait, de tous ces outils, et on n'est plus déjà dans le jeu vidéo, on est dans le sport, c'est ce qu'explique cet auditeur, donc on est dans quelque chose de complètement nouveau, et ça, c'est typiquement le type d'application qui est vertueuse, qui est belle, qui est amenée à se développer.
Donc quand il n'y a pas de neige à des Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, on dit que la solution est toute trouvée, c'est ça l'idée, au fond, parce que dans le métaverse, si on décide qu'il y a de la neige, il y aura forcément de la neige.
Oui, il y aura même des combinaisons qui font du froid et de l'air. Donc,
voilà, c'est donc plus écolo au fond. Enfin, quoique, allez savoir après. En tout cas, c'est passionnant ce qui nous attend, peut-être un peu effrayant, on n'en sait rien, mais ce sera l'occasion d'y revenir. Je serais ravi d'essayer un jour, Jérôme.
Alors, avec plaisir, je vous envoie une invitation.
Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, merci vraiment à tous et merci de vos nombreuses questions.